retourne dans ta présence. Ta présence est agréable. Il fait beau dans ta présence. Nous voulons évoluer dans ta présence. Nous sommes encore sur la terre des vivants. C'est pendant toi qui nous fais goûter des choses d'avenir, des choses de la vie éternelle. Oh, nous avions raison, votre Seigneur, mon Dieu, de célébrer ton nom. Nous ne pouvons pas nous réunir en ces lieux et pour adorer un homme. Nous ne pouvons pas nous présenter dans cette maison pour une idole. Seigneur, c'est toi qui conviens. Tu conviens à notre louange. Tu conviens à notre adoration. Les mots que nous apporterons au devant de toi ne suffiront pas. Mais nous ne voulons pas, oh Seigneur mon Dieu, ne pas les faire. Je vis pour t'adorer. Laisse-moi célébrer ton nom, Jésus. Laisse-moi demeurer dans ta présence. Tu me fais tellement du bien, oh Seigneur, que je ne peux pas me sortir de toi, que je ne peux pas quitter ta présence, je ne peux pas aller ailleurs. Jésus, laisse-moi rester auprès de toi. Il fait beau dans ta présence. Ta présence est tellement merveilleuse. Ta présence est tellement agréable. Seigneur, sois béni. Seigneur, sois glorifié à jamais. Oui, Seigneur, toute la gloire est à toi. Tout l'honneur est à toi. Parce que tu vis éternellement. Tu n'es pas là pour un petit moment. Tu n'es pas là pour un délai. Mais tu vis éternellement. Toutes les générations te connaîtront. Oui, notre génération passera. Et les générations de Dieu viendront. Mais elles te connaîtront, ô Seigneur. Parce que c'est toi, le Dieu de toute la terre. Tu te nommes le Dieu de toute la terre. Et c'est ta famille dit, nous sommes venus te célébrer. Nous sommes venus élever le grand roi. Nous sommes venus élever le Dieu vivant. Nous sommes venus élever celui qui est allé jusqu'à la croix pour nous sauver. Jésus, sois élevé. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merveilleux Jésus. Merci Seigneur. Merveilleux Jésus. Est-ce que nous pouvons donner des applaudissements, des acclamations à notre Dieu? Que le nom du Seigneur soit béni. C'est sa grâce qui nous maintient encore au devant de vous et nous lui sommes infiniment reconnaissants. Nous voulons également dire merci au frère Maurice qui est notre pasteur, que le Seigneur le prenne encore en charge. Et merci pour nous avoir cédé cette chair. Que toute la gloire revienne à Jésus, notre Dieu. Cet avant-midi, nous voulons revenir sur le thème du dimanche écoulé. Vous étiez mon auditoire et il y a eu un point que nous n'avons pas pu aborder. Et le Seigneur nous fera grâce pour que nous puissions terminer ce message. Lisons la parole du Seigneur dans le livre de Jean du chapitre 2. À partir du 13 jusqu'au 22e verset. Jean 2, 13 à 22. Et je crois que vous êtes là. Je disais, lisons la parole du Seigneur dans le livre de Jean, du chapitre 2, du 13 au 22e verset. Je lis au nom de Jésus. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit au vendeur de pigeons, « Ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Les ailes de ta maison me dévorent. » Les Juifs, prenant la parole, lui dirent, « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi en 3 jours tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi lorsqu'il fit ressusciter des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et ils crient à l'écriture et à la parole que Jésus avait dit. Seigneur, tu sais garantir les choses. Tu ne pouvais pas laisser ton agenda sans accomplissement, sans revenir, sans appuyer ce que tu as déjà noté, ce que tu as déjà commencé dans la vie de tes enfants. Les disciples ne pouvaient pas rester avec cette incertitude. Ils ont vu, ils ont vécu la puissance du Seigneur et ils pouvaient s'attacher encore plus à ta parole. Et c'est cette parole qui se présente au devant de nous cet après-midi. Que ta parole produise une confiance dans la vie de quelqu'un. Que ta parole amène quelqu'un à croire encore davantage, amène quelqu'un à s'accrocher encore en toi, Seigneur. Tu bénis ta parole et fais-nous du bien dans le nom puissant de Jésus. Nous disons Amen et nous applaudissons la parole du Seigneur avec des acclamations, avec des cris de joie. Sous les yeux des Juifs et le dimanche coulé, nous avions abordé notre premier point qui était intitulé Jésus et son acte du temple. Nous voyons Jésus se présenter au temple et sous les yeux des Juifs, ces Juifs-là n'étaient pas des simples Juifs, c'était des chefs religieux, des sacrificateurs. Ils étaient des chefs juifs. Et sous leurs yeux, Jésus va chasser tous les vendeurs du temple. Tous les vendeurs qui commerçaient dans la maison du Seigneur. Jésus va les chasser, il va faire une corde et il va les fouetter, il va renverser les tables de changeurs de monnaie. Il va disperser même leur monnaie. Bien-aimés, c'était un acte puissant. Et avec cet acte, tout était bien en place pour que la vie suive. Tout était bien en place pour que la vie suive. Mais regarde ce qui va se passer avec ce chef juif. Là, il va encore poser la question. Quel miracle nous montre-t-il pour agir de la sorte? Donc ça signifie que malgré cet acte puissant, la vie de ce chef juif n'a pas suivi. Malgré ce que nous attendons, comme parole du Seigneur, malgré la parole du Seigneur est à la hauteur, malgré la parole du Seigneur est puissante, mais notre vie ne suit pas, malheureusement. La vie devait s'engager, la vie devait être souple devant cette parole. Mais nous voyons avec ces chefs juifs, la vie ne suit pas. Ils veulent encore plus, ils veulent encore que le Seigneur ajoute encore, que le Seigneur monte encore, que le Seigneur fasse encore quelque chose d'autre. Et pourtant, cette parole suffisait. Bien aimé, la parole, chaque parole du Seigneur, chaque parole que nous entendons du Seigneur suffit pour que nous puissions mettre notre vie en ordre. Suffit pour que toute notre vie marche dans la droiture. Alors, ne négligeons pas la parole du Seigneur. Je ne vais pas tarder trop là-dessus parce que nous avons encore cet après-midi une matière abondante. Et souffrez que nous passions directement à notre deuxième point que nous avions intitulé « La vie de Christ garantie comme preuve ». La vie de Christ garantie comme preuve. Après avoir chassé les vendeurs du temple, la question des Juifs concernant cet acte a encore poussé Jésus à aller plus loin, jusqu'à mettre sa propre vie en jeu. Il lui dit, détruisez ce temple et en 3 jours, je vais le relever. C'est sa vie qui est en jeu. C'est sa vie qu'il met en place. Et ça, cette histoire se passe bien avec... C'est un peu comme ce qui se passe avec les catcheurs ou des boxeurs. Vous allez voir un grand catcheur qui se présente et il va dire à son adversaire, si tu gagnes ce combat, tu vas emporter même ma ceinture. Il va mettre sa ceinture en jeu. Et c'est à ce niveau-là que les choses deviennent intéressantes. Le combat allait être ordinaire. Mais il vient, il met sa ceinture en jeu. Là, ça devient intéressant. Là même, le public sera curieux. Le public ne voudra pas laisser un seul instant pour regarder, voir tout ce qui va se passer. Parce qu'il y a toute une ceinture en jeu. Et Christ, lui, il met sa vie en jeu. C'est sa vie qu'il met en jeu. C'est sa vie qu'il va placer comme garantie. Et bien aimé, cela devient très intéressant en voyant le Seigneur disposer sa propre vie en jeu. Chasser les vendeurs du temple, ça c'est normal, parce qu'il faut, il faudrait bien mettre de l'ordre dans la maison du Seigneur, mais jusqu'à mettre sa vie en jeu, ça devient, ça monte de niveau. Ça devient autre chose. Ça devient intéressant. Les choses ont changé. Elles ne sont plus les mêmes. Les choses ont pris une autre connotation. Ça devient intéressant. Et bien aimé, laissez-moi vous dire cet après-midi que toute aventure où Jésus aura ses pieds dedans finirait toujours par prendre une autre tournure aux yeux de tous. Toute aventure où Jésus aura ses pieds dedans finirait toujours par prendre une autre tournure aux yeux de tous. Jésus met sa vie en jeu et il est trop sûr de lui. Il met sa vie en jeu, il est trop sûr de lui. Chez les catcheurs, il existe toujours une possibilité de ravir un titre ou une ceinture à celui ou à celle qui a décidé de la mettre en jeu. On peut toujours ravir. Il peut toujours perdre son titre ou sa ceinture. Mais Jésus, lui, ne prend pas de décision à coup de tête. Non. Avant même de prendre une quelconque décision, il est déjà capable de tout. Donc le Jésus qui met sa vie en jeu, il sait aussi que ma vie, la personne ne la ravira. Lui-même, il dit, je peux donner ma vie et je peux la reprendre. Il a le pouvoir de la donner et de la reprendre. Donc notre Dieu, quand il met sa vie en jeu, ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas comme les quartiers. Les quartiers peuvent regretter, mais pourquoi j'ai fait ça? Mais Dieu, il est trop sûr de lui. Il est trop sûr de lui. Alors bien aimé, confrontez ta situation avec Jésus et vous verrez toujours Jésus là, c'est Jésus là debout. Je ne sais pas quelle situation que vous aviez amenée dans la maison du Seigneur. Qu'est-ce qui vous trouble, qu'est-ce qui vous inquiète? Confronte ça avec le Seigneur et vous verrez toujours ce Dieu-là rester debout. Ta maladie ne renversera jamais le Seigneur. Cette sérénité qui trouble ta vie depuis les années, ça ne pouvait pas jeter Jésus-Christ par terre, non. Alors venez avec vos situations, venez avec vos cancers, venez avec tout ce qui perturbe vos santé, venez avec vos problèmes. Jésus est capable de tout. Vous pouvez affronter n'importe quel problème à Jésus et le Seigneur restera toujours debout. Il ne perdra pas sa vie. Ce n'est pas un problème qui va faire en sorte que Jésus perde sa vie, non. Lui, il est sûr. Il a le pouvoir de donner sa vie et de la reprendre. Il est trop sûr et c'est pourquoi nous avons un Dieu vivant, un Dieu puissant. Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Christ va tout simplement dire, confrontez-moi avec la mort et vous me verrez toujours vivant. Confrontez-moi avec la mort et vous me verrez toujours vivant. Vous me verrez toujours vivant. Et la Bible dit, Christ est ressuscité des morts. Ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Confrontez Jésus avec n'importe quelle situation et il est là. Il est là. Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Il va tout simplement dire à ses chefs juifs, confrontez-moi même avec la mort et vous me verrez toujours vivant. Bien-aimé, chez Jésus, la vie reste dedans et le chaos dehors. La vie reste dedans et le chaos dehors. C'est de cette manière que Jésus fonctionne. Jésus ne fonctionne pas avec le chaos au-dedans, le chaos dans son cercle, non. Lui, c'est la vie qui est dans son cercle. C'est la vie. C'est la vie. Bien-aimé, je vais dire à quelqu'un de changer tout simplement de maître. Change de maître. Parce que le maître là que tu as maintenant, il t'est juste trompé. Change de maître. C'est Jésus seul qui reste debout. En cas de pépin, les autres là peuvent abandonner. Les autres là peuvent se retrouver par terre. C'est Jésus seul qui reste debout. Alors change tout simplement de maître. Change de maître. Parce que Jésus est capable de tout. Jésus est capable de tout. Je ne sais pas. Peut-être que vous tardez encore avec votre situation. Vous êtes dans l'occultisme. Mais bien aimé, laissez-vous dire que c'est malheureux. C'est malheureux de porter encore des amulettes, de porter encore des trucs bizarres. C'est malheureux. Le vrai maître, le véritable maître, c'est Jésus. Et il n'y a pas de comparaison à ce niveau. Il reste le seul et l'unique véritable maître. Alors laissez votre maître là de côté. Il est inférieur à Jésus. Goûtez à Jésus. Montez des dimensions avec le Seigneur. Découvrez Jésus parce qu'il a des dimensions avec lui. Découvrez Jésus. Laissez votre maître de côté. Jésus est puissant. Les Philistins avaient regretté Dagon qui était leur dieu. Parce qu'ils ont osé mettre Dagon côte à côte avec l'Éternel. Le lendemain, on vient trouver Dagon à genoux devant l'Éternel. Ils disent non, on peut encore aider notre Dieu. C'est quand même notre Dieu, on ne va pas les laisser comme ça. Redressons-les. Et puis, pouf, on va les redresser. Les jours suivants, ils viennent encore, ils viennent trouver cette fois-ci Dagon en morceaux, en pièces, mis en pièces par l'Éternel des armées. Alors pourquoi traîner avec des dragons? Pourquoi traîner? Les Philistins ont regretté leur dragon. Il a été mis en pièces par Jésus. Pourquoi traîner? Pourquoi traîner avec ses maîtres? Abandonne et viens chez Jésus. Viens chez Jésus. Baal, le dieu des Madianites, était incapable de plaider lui-même sa propre cause. On va détruire Baal et puis les gens vont se lever. Non, c'est Gédéon, on va le tuer, on va l'éliminer. Non, le problème ce n'est pas Gédéon, le problème c'est Baal. C'est Baal qui devait éliminer Gédéon. Mais Gédéon est rempli de la présence du Seigneur et Baal était détruit par Gédéon. Baal ne sait pas plaider sa propre cause. Cet amulette-là ne plaidera pas. Ne plaidera pas sa propre cause devant vous. Accomplez plus fort des raisons qui ne pouvaient même pas vous protéger. Abandonne tout simplement. Viens chez Jésus. Viens chez Jésus. C'est lui seul le véritable maître. Et même Laban, qui avait plusieurs dieux, sa propre fille va voler ses dieux. La fille de Laban, Rachel, va voler le dieu de son père, le séraphin. Rachel va le voler, un dieu qu'on peut facilement voler. Ce ne sont pas des maîtres, bien-aimés. Ce ne sont pas des maîtres, abandonnez-les. Abandonnez-les, ce ne sont pas des maîtres. Ils vous étouffent inutilement, ils vous font passer du temps inutilement. Le véritable maître, c'est Jésus. Le véritable maître, c'est Jésus. Chez Jésus, la vie est dedans et le chaos dehors. Tandis que chez eux, le chaos dedans et la vie reste dehors. Viens chez Jésus, bien-aimé. Viens chez Jésus. Et ce qui est encore déplorable, c'est que Israël, à une certaine époque, va essayer de mélanger et Dieu et Baal. Pourquoi? Parce qu'ils avaient besoin de palper les choses physiquement. Et ils pouvaient consulter Baal qui donnait la fertilité à leur terre. Et ils mélangeaient les choses. Ils mélangeaient. Mais la conclusion, Israël a fini par dire que c'est l'Éternel qui est Dieu. Sors tout simplement de cette confusion. C'est une confusion de marcher et avec Dieu et avec les maîtres que nous avons partis par là. C'est une confusion parce que le véritable maître restera toujours le véritable. Et c'est Jésus seul. C'est Jésus seul qui est le véritable maître. C'est Jésus seul. Israël a fini par conclure que c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Bien-aimé, ne te trompe pas de maître. Jésus a accepté de mourir à ta place. Et cela veut dire qu'il est capable d'aller plus loin, qu'il n'a pas de frontières pour ta vie. Jésus n'a pas de frontières. J'étais dans un songe, juste un exemple. Et là, le Seigneur m'a montré. J'étais devant un choix. Je devais choisir entre mon travail et quelque chose que Dieu avait disposé. C'était quelque chose de grand. Et moi-même, j'étais en... Le Seigneur me disait de faire un choix. Et moi-même, j'ai regardé le travail, j'ai appliqué même les proverbes chinois. Mais je dis, ce que le Seigneur a disposé là, c'est tellement gros, c'est tellement grand, c'est tellement vaste. J'accepte. J'accepte la partie du Seigneur. Et puis, pouf, c'était un songe. Et après un temps, je devais perdre effectivement mon travail. Et ça fait plusieurs années comme ça là. Je ne voyais rien. Ce que le Seigneur m'avait proposé là, je ne voyais absolument rien. Je devais quand même engager mes dépenses. Je suis quand même une responsable d'une famille. Je devais engager mes dépenses, mais je n'arrivais pas. Et un jour, c'était un soir, je me disais à moi-même, Dieu est en train d'exagérer. Je ne peux pas rester comme ça. Il m'a donné de faire un choix. Maintenant, j'ai choisi son côté, ce qu'il a mis en place. Mon travail, je l'ai déjà perdu. Mais d'où vient que je reste comme ça des années et puis lui ne fait rien. C'est qu'il est en train d'exagérer. Je conclue, je me disais à moi-même, cette fois-ci, je vais faire comme tout le monde. C'est-à-dire, je vais chercher de l'argent comme tout le monde. Là, il tripote, moi aussi je vais tripoter. Moi aussi je suis allé plus loin. Je vais tripoter. C'était un soir, et puis, pouf, je dois dormir, et là, le Seigneur vient. Dans un songe. Francis, tu veux vraiment travailler comme tout le monde? Je dis, Seigneur, oui. Il dit, d'accord. Vas-y, travaille. Et j'ai vu beaucoup d'argent. J'étais dans l'ambiance. C'était formidable. J'ai dit, waouh, c'est ce que je voulais. Mais vous savez ce que le Seigneur a fait? Il a soupiré juste sa sécurité. Il a soupiré ça. Bien, mais ce que j'ai vu là, je n'ai jamais vu une telle insécurité physiquement comme ça là. Je n'ai jamais vu ça. Et je ne sais même pas vous décrire. Comment c'était? Je n'ai pas de description, je n'ai pas de mots pour expliquer cette insécurité que j'avais vue. Je n'avais pas encore ouvert mon œil. J'étais encore dans mon songe là. Je disais, genre, Seigneur, pardon. Je ne suis qu'un insensé. je ne peux pas me retirer de toi. Pardon, je reste encore. Je suis encore avec toi. J'accepte encore. Bien-aimé, c'est Jésus qui est allé jusqu'à la croix de Golgotha. Bien-aimé, vous ne savez pas ce qu'il est capable de faire dans votre vie. S'il est allé déjà à la croix de Golgotha, cela veut dire qu'il n'a pas de frontières pour ta vie. Pendant tout ce temps que je vivais, c'est vrai, il peut-il y avoir des moments où tu manquais vraiment tout. Mais je me suis rendu compte, même à ce moment-là, il y avait la sécurité du Seigneur. Oh, le Seigneur est formidable. Le Seigneur est merveilleux. Il y avait sa sécurité. Il y avait sa sécurité et ça m'a fait beaucoup de bien. Parce que notre Dieu, il est capable d'aller plus loin pour notre vie. Il est capable d'aller plus loin. Christ a dit au chef juif, détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Le temple dont il est question ici, c'est le temple corps de Jésus. Donc Jésus parlait de son propre corps. Et non, il ne parlait pas du temple comme maison de Dieu. Et là même l'auteur du livre nous a donné des précisions. Nous avions lu ça ensemble. L'auteur nous a aidé, il nous a donné toutes les précisions concernant le temple qu'il était question ici. Et je voudrais que vous remarquiez ceci. Pour chasser les vandales du temple, Jésus s'est servi d'une puissance visible au niveau physique. Pour chasser les vandales du temple, Jésus s'est servi d'une puissance visible au niveau physique. Mais lorsqu'il s'agit de donner la preuve de ce qu'il vient de faire, là, il monte au niveau spirituel. Là, il n'est plus physique. C'est-à-dire, toutes les merveilles, tout ce que nous venons de parler, toutes ces choses-là, toutes ces démonstrations-là, que Jésus est capable de guérir même les cancers, Jésus est capable d'ôter même les péchés, Jésus est capable de faire de choses extraordinaires, tout ce que nous avions démontré, Jésus-Christ a collé ça avec un emballage spirituel. Pour chasser les vandales du temple, Jésus s'est servi d'une puissance visible au niveau physique. Mais lorsqu'il s'agit de donner la preuve de ce qu'il vient de faire, là, il monte au niveau spirituel. Il monte au niveau spirituel. Et tout est emballé spirituellement. C'est ça l'emballage. Et qu'est-ce qui a fait ça? Il est question. C'est la question des juifs. C'est la question de ces chefs juifs. Quel miracle nous montre-t-il pour agir de la sorte? C'est cette question-là qui a fait en sorte que le Seigneur réponde en emballant tout par un emballage spirituel. Le problème, c'est cette question des juifs. Quel miracle nous montre-t-il pour agir de la sorte? Cette question des juifs a placé Jésus en face d'une situation qui n'était plus la même. La situation avait déjà changé. La situation n'était plus la même. Et bien aimé, laissez-moi vous dire que sur la terre, les choses varient. Les choses ne resteront pas toujours les mêmes. Les choses varient, les choses changent. La dimension spirituelle prévoit une réponse en amont. Je vais faire à ma manière. Je vais chercher à ma manière. Il n'est pas encore trop tard pour vous. Vous pouvez revenir. Vous pouvez ressaisir encore ces profits et voir la réponse par rapport à votre préoccupation. Parce que la dimension spirituelle est prête à répondre à ta préoccupation. Il y a une réponse que Dieu a réservée. C'est vrai, cette situation-là est vraiment compliquée. Vous ne pouvez même pas expliquer ça publiquement. Personne ne pouvait comprendre cela. C'est tellement lourd, ça fait tellement peur. Mais la dimension spirituelle a prévu une réponse pour vous. La dimension spirituelle peut faire quelque chose pour vous. C'est le physique qui est limité. C'est le physique qui ne dispose plus de réponses. Mais la dimension spirituelle a toujours une réponse pour vous. Inutile d'aller ailleurs. La dimension spirituelle a une réponse. Et le Seigneur veut vous répondre cet avant-midi. Parce qu'il a les moyens avec lui. Il a les moyens. Les prophètes étaient là et lui voulait aller ailleurs. Et c'est ce qui se passe avec les chefs juifs. C'est malheureux. Les chefs juifs d'ailleurs, ils ne savent même pas que les choses avaient déjà varié. Ils ne savent pas. Ça commençait avec une force qui était manifestée au niveau physique. On peut palper, on peut voir que Jésus est en train de faire quelque chose de grand. Il voyait quand il bousculait les vendeurs dans le temple, quand il les chassait, quand il les fouettait, quand il renversait leur table. Il voyait tout ça. C'était physiquement qu'on pouvait voir tout ça. Mais lorsque la question va arriver, tout était déjà dans la variation. Mais ces chefs juifs n'avaient même pas su que les choses avaient déjà changé. Et c'est là où ça devient encore pire. C'est juste des chefs juifs devant une dimension spirituelle. Mais ils étaient tous hors sol. Et c'est compliqué. C'est compliqué. Avant la question des Juifs, Christ avait déjà fait quelque chose. Et c'est ce que nous venons d'expliquer ici. Christ avait déjà fait quelque chose. Il a remis l'ordre en place. Il a trouvé le désordre dans le temple. Il a trouvé le désordre dans la vie de ceux qui étaient au temple. Et Christ a remis l'ordre. C'était déjà quelque chose que le Seigneur avait fait. Et c'était fort, c'était merveilleux. Avant la question des Juifs, Christ avait déjà fait quelque chose. Et avec ce qui vient de se passer encore, ce qu'il vient de toucher dans sa réponse, il y avait toute la possibilité pour que ce chef juif croie en lui. Ce qu'il a fait est là. Et ce qu'il vient d'ajouter dans sa réponse, si nous mélangeons tout, il y avait toute une possibilité pour que ce chef juif croie en Jésus. Il y avait toute la possibilité. Mais ils sont allés ailleurs. Ils sont allés malheureusement ailleurs. Bien-aimés, la dimension spirituelle est à saisir. Ce n'est pas quelque chose à laisser tomber. Il faut saisir. C'est bon pour notre vie. C'est bien pour nous. Nous allons nous en sortir avec ça. Regardez, les choses touchent la dimension spirituelle, mais tous les chefs juifs, ils sont hors sol. Et ça, ce n'est pas bien. Ils ne pouvaient pas varier comme les choses avaient déjà varié au milieu d'eux. Et ça, c'est malheureux. C'est malheureux. Il y avait tout. La possibilité pour que ce chef juif croie en lui. Mais le profit spirituel n'a pas été pris en considération. Ce qui a failli, c'est la considération, la prise de la considération spirituelle. C'est ce qui a failli. Et c'est ce qui faillit peut-être dans votre vie. La prise en charge, vous ne considérez pas le profit spirituel. Vous avez tout avec le Seigneur. Même avant de venir, si vous aviez déjà certainement entendu plusieurs fois la parole du Seigneur, vous avez déjà vu beaucoup de choses du Seigneur. Mais c'est juste le profit spirituel qui ne suit pas. C'est là où vous n'arrivez pas à cadrer les choses. Les prophéties spirituelles n'ont pas été prises en considération. Et tout va leur échapper. Le Seigneur parle du temple, de son corps, et ils font des calculs. Mais ce bâtiment de ce temple, ça fait 46 ans pour construire ça. Et toi, il veut détruire ça. Il veut détruire ça. Le Seigneur était à ce niveau-là? Non. Est-ce que le Seigneur voulait vraiment que ce mur-là s'écroule? Non. Le Seigneur avait besoin que le temple soit là, c'est sa maison. Mais il était juste au niveau spirituel. Et ils sont restés bas. Bien-aimé, monte encore! Ne reste pas toujours au niveau physique, ne reste pas bas. Quand les choses varient, toi aussi varies. N'aie pas de prière constante. Ta prière, c'est seulement comme ça. Lorsque tu veux manger, il y a quoi, amen. C'est toujours ça. Il y a des variations. Si tu trouves qu'à manger devient compliqué dans ta maison, tu peux varier. Tu peux varier la prière même à ta table. C'est seulement cette prière-là. C'est seulement cette dimension-là. Monte un peu au niveau spirituel. Et tu vas te retrouver. Tu t'égares parce que tu es resté au niveau physique. Les chefs juifs se sont égarés parce qu'ils sont au niveau physique. Ce n'est pas la faute du Seigneur. Le Seigneur n'avait aucune intention de les faire égarer. Non. Le Seigneur, il avait juste compris que cette question a tout varié. D'où je monte au niveau spirituel. Parce que ça là, je ne peux pas répondre ça au niveau physique, il n'y a pas de réponse. Ce qu'ils m'ont posé comme question, la réponse se trouve là-bas. Ça se trouve au niveau spirituel. D'où je monte pour répondre. Mais ils sont restés seulement à leur niveau. C'est pourquoi tu ne vis pas beaucoup de choses. C'est pourquoi tu ne peux pas palper beaucoup de choses. Parce que tu es encore là. Tu ne veux pas monter. Tu ne veux pas varier les choses. Quand ça varie, toi aussi tu dois varier les choses. Tu dois varier la prière. Tu dois varier ta façon de s'approcher du Seigneur. Même si les gens vont trouver que tu es en train d'exagérer, peu importe. J'ai constaté que ça varie. Et moi aussi, je vais varier les choses. Je vais varier les choses. Christ avait déjà fait quelque chose. Et c'était formidable. Ce qu'il a encore ajouté dans sa réponse, tout suffisait.